Sinueux et saillant, les serrés s'écarnissant, des pensées à notre vie quotidienne. Nous viendraient certainement à l'esprit tous les bons moments, nos proches, nos amitiés, et plus généralement la certitude d'avoir tout ce qu'il faut pour, d'une manière ou d'une autre, profiter pleinement de chaque instant. Ce qui, pour nous, est aujourd'hui presque un niveau de vie que nous considérons comme standard. Reste, pour d'autres, un rêve semblant et irréalisable. Contrairement à nous, il existe dans le monde des personnes qui connaissaient chaque jour la solitude, la tristesse et l'espoir de quelque chose de meilleur, qui, cependant, s'accompagnent d'un plaisir dans les petites choses. Et si ces petits espaces de plaisir devenaient néfastes, mais sans que la personne en soit responsable, c'est exactement ce qui est arrivé à un pauvre pêcheur nommé Séon. Il avait 60 ans. C'était un vieil homme typique de son âge, taille moyenne, robuste et ayant l'air très solitaire. En effet, il n'avait pas d'enfant, ne s'était pas marié, avait vu ses parents mourir sous ses yeux. Il n'avait plus d'amis dans sa vie et le seul content humain qu'il avait était celui avec sa sœur, Alma, qui lui rendait visite une fois par mois. Séon possédait une petite maison sur pilotis surplombant les lacs Grandlieu, depuis laquelle il pêchait régulièrement pour ensuite cuisiner et manger ses prises. Sa vie tournait autour de cette simple action, la pêche, qui remplissait ses journées et lui donnait la force de continuer à vivre.
Un jour, cependant, tout changea. Avec l'augmentation de la popularité du lieu, de plus en plus de gens commencèrent à le visiter et par conséquent, de nombreuses installations furent créées pour répondre à l'énorme augmentation du tourisme. Particulièrement, de nombreuses entreprises virent le jour et produisent de quantités disproportionnées de déchets. Elles furent contraintes de déverser tous leurs déchets dans le lac. Au fil des mois, la situation continua à s'aggraver et, en l'absence d'une véritable traîne où converge le flux d'eau des structures sous-maintenues, il a décidé de confier à nouveau ses rôles au pauvre lac. Son, quant à lui, continuait sa routine monotone, mais quelque chose en lui commençait lentement à changer. Chaque jour passé, il se sentait de plus en plus fatigué, abattu, faillible, triste, et il se rendit compte que les poissons du lac étaient de moins en moins nombreux et que l'eau était de plus en plus trouble et noire, mais il ne prêta pas beaucoup d'attention à ces détails. Au début, il pensa que son été pouvait être d'une à une simple dépression, mais au fur et à mesure que le symptôme s'aggrave, il se rendit compte que cela ne pouvait pas être la cause, ou du moins pas la seule, et il décida donc d'aller voir un médecin.
Le docteur Vollmer vivait dans une petite ville, non loin du lac, et sa réputation le précédait dans tous les villages limitrophes. Le pêcheur monta dans sa vieille Range Rover Race, qui l'avait toujours accompagné dans les pires, mais aussi les meilleurs moments de sa vie, et s'est mis en route. Le trajet dura environ une demi-heure, et une fois arrivé, il fut très tendu, car il voulait savoir si ce médecin si célèbre allait enfin pouvoir lui donner une explication sur l'origine de son malaise intérieur et extérieur, qui les dévorait jusqu'à la moelle, et peut-être s'il allait l'aider à les guérir.
Une fois sorti de la voiture, la première chose qu'il remarqua fut le bâtiment où il aurait dû rencontrer le médecin. Il était très moderne, manifestement fut de cette nouvelle ère d'architecture imposante dont le seul but est d'optimiser l'espace. Et il avait l'impression de perdre le souffle rien que l'on voyait. Lui qui, toute sa vie, n'avait vu que sa belle maison sur pilote, qu'il avait toujours en partie sauvé de l'impact de la modernité.
Après avoir observé les bâtiments, il ne perdit pas beaucoup de temps et s'approcha de l'entrée. L'homme entra par la porte automatique et se dirigea le plus rapidement possible vers la réceptionniste, avant 10h30, l'heure à laquelle il avait son rendez-vous.
Bonjour, comment puis-je vous aider ?
Dit politement la réceptionniste.
J'ai un rendez-vous avec le docteur Valmer à 10h30.
Répondit-il.
Laissez-moi vérifier. Oui, je vous vois. Les médecins viennent de terminer avec le dernier patient. Rejoignez-le au 7e étage. Suivez la porte à droite et prenez l'ascenseur par là.
Poursuit la réceptionniste.
Merci beaucoup.
Dit les pêcheurs. L'homme se dirigeait alors vers l'ascenseur et monta à l'étage indiqué par la dame. Une fois sorti de l'ascenseur, il se dirigea vers la droite et sonna à la porte qu'il pense être celle du médecin. Ce dernier ouvrit la porte et les fit entrer.
Bonjour, asseyez-vous. Entre-temps, dites-moi, pour quel motif voulez-vous être examiné ?
Le médecin lui demanda.
Depuis quelque temps, je me sens très faible. Je ressens d'atroces douleurs abdominales. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai souvent la nausée. Je n'ai pas beaucoup d'appétit et je suis aussi beaucoup plus triste que d'habitude. Tout cela depuis où le lac où j'avais l'habitude de pêcher a changé. Les poissons sont moins nombreux. Et je pense que l'eau est devenue beaucoup plus trouble que d'habitude.
Eh bien, tu vois, à ton âge, il est normal de ressentir les symptômes physiques que tu m'as décrits. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de dormir un peu plus et peut-être de t'adonner à des loisirs pour te distraire. Quant à la tristesse, je ne pense pas qu'il n'y ait de médicament qui puisse la guérir. Pour cela, tu devrais y réfléchir toi-même. Ou si tu veux, je peux te donner le nom d'un psychologue. Cependant, l'effet que vous m'ayez parler du lac. Je ne pense pas qu'il soit lié à vos symptômes. Peut-être est-ce simplement la saison. Pour en revenir à la question de la tristesse, dites-moi, n'avez-vous personne à qui vous confier ?
Demanda le médecin.
Je n'ai personne en dehors de ma chère sœur et je ne lui parle même pas beaucoup. Juste une fois par mois. Et honnêtement, jusqu'à présent, j'ai l'impression de comprendre les poissons mieux que les gens qui m'entourent. Ne se rend-il pas compte de la façon dont il ruine la nature ? Il fut un temps où l'eau de ce lac était si claire qu'on pouvait en voir le fond. Mais aujourd'hui, elle est devenue aussi noire que du goudron. Sous l'eau, on ne voit pas plus d'un centimètre, et la plupart des poissons de la région sont en train de mourir ou de suivre la rivière en aval à la recherche d'une eau meilleure. Maintenant que j'y pense, l'état du lac pourrait bien être de leur faute.
Répondit l'homme, presque désespéré.
Mais non, je ne pense pas que ce qui se passe soit la faute de l'homme. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sera la saison. D'après ce que je sais, les poissons en automne migrent vers des zones plus chaudes. Dans votre cas, peut-être le lac lui-même.
Les médecins finissent par dire et escortent les pêcheurs hors de l'établissement. Les lendemains, le pêcheur est retourné à sa maison sur pilotis. Le cœur encore lourd des paroles du médecin. La tristesse de son état et les déclins à vers du lac les tourmentaient. Alors que le pêcheur s'assoit sous sa vieille chaise en bois, sa sœur entre dans la maison, les visages inquiets.
Bonjour mon frère, comment vas-tu aujourd'hui ?
Demanda-t-elle en remarquant son air fatigué.
Bonjour ma sœur,
répondit-il. Et nous soupirons.
Pas très bien, malheureusement. J'ai vu le médecin hier. Je me sens fatigué. Je n'ai plus faim, comme tu peux le voir. J'ai perdu du poids. Je suis souvent nauséeux et triste. Et la pêche, eh bien, elle a changé. Le lac n'est plus ce qu'il est.
Sa sœur s'assoit à côté de lui, inquiète.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que le médecin t'a dit ?
Il a dit que mes maladies étaient normales pour mon âge, mais que ma tristesse venait d'autre chose. Ce que je sais, c'est que les gens abîment le lac. Depuis que je m'en suis rendu compte, je le remarque tous les jours. Les poissons disparaissent et l'eau est devenue noire. Je ne peux plus pêcher comme avant.
Je sais, c'est déchirant, mais nous devons continuer à nous battre. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire sans rien faire.
J'ai essayé, mais ma voix ne semble atteindre personne. Chaque fois que je vois le lac dans cet état, je sens quelque chose se briser en moi.
Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui aiment cet endroit autant que vous. Nous pouvons nous unir et nous faire entendre. Nous ne pouvons pas abandonner.
Je crains qu'il ne soit trop tard. Ma santé continue de se détériorer. J'ai même l'impression de disparaître en même temps que ce lac.
Les jours suivants furent pour les pêcheurs comme un long coucher de soleil. Chaque matin, il avait de plus en plus de mal à s'élever. Et chaque soir, son regard se perd dans l'obscurité grandissante du lac qui lui avait eu donné autrefois. Ce n'était plus qu'une ombre d'eau, chargée de déchets invisibles, silencieuse comme un tombeau. Le pêcheur, assis sur la rive, toussait violemment et, à chaque tue, semblait perdre un morceau de son existence. Un soir, le ciel avait pris les couleurs rougeâtres du coucher du soleil et les vents portent une odeur intense de plastique. Alma arriva comme chaque semaine, compte tenu de la détérioration de l'état de son frère. Mais quelque chose changea dans son regard lorsqu'elle les vit. Ce n'était pas seulement la fatigue qui s'est liée sur les traits. Cet enfant, le pêcheur, la regarda, lui prit la main et dit à voix basse.
Promets-moi de parler. Promets-moi de dire au monde ce qui m'a tué, même si je n'ai pas pu comprendre ce que c'était, et de raconter l'histoire du lac. Mais s'il te plaît, dis à tout le monde que je ne suis pas mort de vieillesse.
Arrêtine ses larmes, acquiesça et serra les mains de son frère pour la dernière fois. Cette nuit-là, le pêcheur s'endormit et se réveilla jamais. Il mourut dans sa maison sur pilotis, entre les planches de bois qui scintaient encore les lacs et la mémoire.
Après sa mort, Alma passa des journées entourées à réfléchir à l'été de son frère maintenant décédé, à ses habitudes et aux symptômes qu'il présentait. Pendant un moment, incapable de trouver une raison possible à la mort de son frère après de longues recherches, elle a pensé un moment d'abandonner. Mais le simple souvenir de ses dernières paroles lui a donné à la force de continuer. Et à la fin, déterminée comme jamais à pouvoir, arriva à une glaçante conclusion. Son frère était mort d'une intoxication. Il avait en effet mangé un poisson également malade, pêché dans le lac. Il était mort parce qu'il avait trop bien suivi sa passion. Il était mort parce que d'autres avaient préféré le profit à la vie.
Les jours de l'enterrement, il pleuvait. Alma ne pleura pas devant les autres. Elle était calme, posée, comme quelqu'un qui a une tâche à accomplir. Quelques jours plus tard, elle écrivit une longue lettre. Elle parlait de son frère, du lac, de la pêche, du long vénin qui s'était insinué dans son corps, et du fait que tout cela était la faute de l'homme et de son insatiable soif de progrès. Il a imprimé des copies de ses lettres et en a parlé dans les journaux locaux. Il a lu dans les écoles, sur les places, aux enfants et aux personnes âgées. Elle parlait d'une voix simple, mais ferme.
Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas.
Son objectif était clair. Ses souvenirs de la mémoire de son frère et luttant contre la pollution.
Au fil du temps, son message a commencé à voyager, même plus que prévu. Certains ont cessé de jeter des déchets dans le lac. D'autres ont commencé à les ramasser. Des petits groupes de citoyens, de villages, même éloignés du lac, formèrent des comités. Les offrant analysés. Même certains policiers écoutèrent et se firent entendre sur la question. Tout ne changea, certes, mais quelque chose, oui, parce que la voix d'un vieux pêcheur, mort en silence, avait trouvé un écho dans le cœur de sa sœur. Cela paraissait peu, mais c'était un grand début. Et là commença le monde à respirer de nouveau. De nouveau.